Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons cette série concernant quelle est la suprême intention. Quelle est la suprême intention? Le titre de l'étude numéro 11 sera « La gloire des fils ». Le Père va bientôt manifester ses nombreux fils et filles aux yeux étonnés de l'univers. Plus nous nous rapprochons de cette heure, plus cette perspective nous saisit. Nous retenons notre souffle. Trop longtemps, notre attention s'est concentrée sur la gloire que nous allions recevoir personnellement. Maintenant que nous contemplons le mystère de Christ et que le corps, l'expression collective de sa personne apparaît à nos yeux, nous tressaillons de joie à la pensée de la gloire qui, lui, en reviendra à lui, oui, au Père. Mais aussi, plus nous saisissons l'intention du Père, plus nous voyons la transcendance et la gloire des fils, hommes et femmes. Alléluia. Il semble que trop souvent, le Saint-Esprit soit regardé simplement comme on ne sait quelle machine à bénir. Or, si nous nous imaginons qu'il a été envoyé essentiellement pour notre profit et notre bien-être, nous prouvons que nous n'avons pas encore compris l'intention du Père. C'est l'Esprit Saint qui fait de notre qualité de fils une réalité vivante. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit Saint. L'Esprit Saint de son Fils, lequel crie « Abba Père » selon Galates chapitre 4, verset 6. Ce que la loi, comme pédagogue, a fait pour Israël, c'est pour nous l'Esprit d'adoption qui l'accomplit. Et cet éducateur a élu domicile en nous, afin que soit réaliser la pensée du Père de faire de nous des fils vraiment accomplis. Les choses étant ainsi, nous comprenons mieux la nécessité d'être gouvernés par le Saint-Esprit. Lorsque par la foi, nous prenons une position d'abandon complet à la Seigneurie de Christ, le Saint-Esprit commence à intervenir dans nos vies et dans nos circonstances et nous nous trouvons immédiatement en face de problèmes pratiques d'obéissance. Quand un père espère se retrouver dans son fils, être personnifié en lui, il ne se déclarera satisfait dans le sens le plus complet du mot, que lorsque le Fils se sera vraiment saturé de son esprit, de ses ambitions et de sa détermination de voir ce plan réalisé. C'est dans ce but que le Père Céleste a placé sous la tutelle de la loi tous les fils que la nature lui a donnés, et cela afin de leur faire découvrir tout ce qui leur manque. Mais à ceux qui sont nés dans sa famille à lui, c'est l'Esprit Saint qu'il leur donne comme éducateur pour les amener à être des fils vraiment mûrs. Alors, quelle est la signification de l'adoption biblique? En quoi un fils diffère-t-il de l'enfant. Eh bien, c'est l'adoption qui fait la différence. Mais qu'est-ce que l'adoption? Eh bien, en Occident, l'adoption consiste à enlever un enfant à une famille pour en faire un membre d'une autre famille. Mais un père grec ou romain n'adoptait comme fils que son propre enfant. La naissance en faisait un enfant, l'adoption le rendait fils. Entre la naissance et l'adoption prenait place la croissance, l'éducation et la discipline. À l'heure présente, nous qui avons passé spirituellement par la naissance, enfants, nous apprenons à marcher selon l'Esprit Saint. Ainsi l'Esprit Saint d'adoption, qui est à l'œuvre au-dedans de nous, fait de nous de plus en plus de véritables fils. Mais pour l'adoption proprement dite, nous sommes encore dans la joyeuse attente de la réalité. Être un fils, c'est intimement plus qu'être simplement un enfant, et le Saint-Esprit n'emploie jamais ces termes hors de propos. Il ne s'agit pas d'une différence de rapport, mais d'une différence de position. Chaque enfant de Dieu, né de nouveau, a en lui la nature de son père et est un membre aimé de sa famille. L'adoption ne peut pas rendre l'enfant plus proche ou plus aimé. Cependant, elle lui confère un statut qu'il ne possédait pas auparavant, une position qu'il n'occupait pas du tout. C'est un acte par lequel on le reconnaît comme une fille ou comme un fils adulte parvenu à la majorité, et c'est le sceau opposé sur sa croissance, sur la maturité de son entendement et de son caractère, bien entendu. Un enfant, c'est un être qui est né de Dieu. Un fils, c'est quelqu'un qui est enseigné de Dieu. Un enfant a la nature de Dieu, un fils a le caractère de Dieu. Je répète parce que c'est important. Un enfant, que ce soit une fille ou un fils, c'est un être qui est né de Dieu. Un fils, et je dirais aussi une fille, c'est quelqu'un qui est enseigné de Dieu. Donc, un enfant aura la nature de Dieu, mais un fils aura le caractère de Dieu. Chers amis, dans les études antérieures, nous avons employé les termes fils, héritier et roi. C'est par souci de simplicité que nous avons retenu l'expression « fils » et j'ajoute « fille ». Dans un sens, elle manque un peu de précision. L'idée divine exprime ce qu'il y a d'absolu et de suprême dans ce qu'un fils, une fille, devrait vraiment être. Comme on le voit, c'est beaucoup plus que l'entrée dans la famille par la naissance. Voyez-vous, c'est l'accès à une responsabilité pleine et entière qui est la part de tous ceux qui sont parvenus à la maturité. Des années avant Jésus-Christ, Ésaïe a fait allusion par l'Esprit Saint à cette précieuse vérité. Il a dit: un enfant nous est né, un fils nous est donné. et la domination reposera sur son épaule. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Le prophète, naturellement, parlait du Seigneur Jésus-Christ, on l'a bien compris. Au temps marqué, un enfant naquit dans la crèche de Bethléem. Et le moment est venu où il fut publiquement reconnu par le Père. Au Jourdain, quand les cieux se sont ouverts et que Saint Jean entendit cette voix divine qui a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est donc là qu'il fut donné à tous ceux qui voudraient bien le recevoir avec tous les droits qui s'attachent à la qualité de fils. Quel sujet de joie il fut pour le Père. Si les pères terrestres ont faim et soif de voir leurs rejetons absorber leur esprit, assimiler leurs pensées, partager leurs sentiments, poursuivre les mêmes objectifs qu'eux, et si voués avec le même élan, combien donc beaucoup plus est le désir de notre Père Céleste de nous voir, nous en arriver à partager son Esprit Saint, ses pensées, ses sentiments, et nous vouer avec la même ferveur à la poursuite de ses objectifs à lui. Nous avons maintenant les prémices de l'Esprit Saint. Nous l'avons, lui, mais lui n'obtient-il? Que obtient-il de nous? On a le droit de poser la question. Nous nous souvenons que c'est sans mesure que l'Esprit Saint a été répandu sur Jésus-Christ. Mais dans quelle mesure, je pose la question, l'avons-nous, moi, toi, l'avons-nous reçu, nous? Chers amis, nous sommes dans l'attente maintenant. C'est parce que nous avons été engendrés par lui que nous attendons le retour du Seigneur dans les airs, quand nous serons enlevés, oui, ça viendra bientôt, plus vite qu'on pense, quand nous serons enlevés pour lui être présentés sans tache ni ride, ni rien de semblable. La voilà donc l'expression qui devrait nous purifier. Mais ce n'est pas seulement nous qui espérons et attendons le reste de la création également. Oui, le reste de la création également est dans l'attente. Je l'espère pour tous. Oui, en quelque sorte, dans une sorte de douleur d'enfantement. On peut bien le dire. Donc, elle attend non pas son enlèvement, mais la délivrance qui lui sera accordée quand nous serons revenus des degrés du trône où Christ s'est assis. Oui, et c'est en gémissant qu'elle attend ainsi la manifestation des fils de Dieu, car c'est ce jour-là, c'est le jour de l'adoption. C'est le jour de cette manifestation, c'est ce aujourd'hui, ou si vous voulez ce jour-là, qui sera le signal de sa délivrance de la malédiction. Oui, c'est dans le jour glorieux de cette manifestation que le Père Céleste fera paraître son Fils bien-aimé et ses fils et ses filles aux yeux d'un univers émerveillé. Et ce jour-là, nous serons prêts à partager avec le Seigneur Jésus-Christ le gouvernement qui reposera sur son épaule. Selon Romains chapitre 8, versets 19 à 25, et vous pouvez noter Éphésiens, chapitre 3, versets 10 et 11, et ne pas oublier le chapitre 5 d'Éphésiens, verset 27. Du reste, la traduction allemande a si bien décrit la chose dans sa traduction de Romains, chapitre 8, verset 18. À mon avis, tout ce que nous pouvons avoir à éprouver maintenant, c'est moins que rien comparé au magnifique avenir que Dieu nous destine. La création tout entière regarde sur la pointe des pieds, pour ainsi dire, et le merveilleux spectacle des fils et des filles de Dieu entrant en jouissance de leurs droits. Que peut-il y avoir de plus merveilleux quand on y réfléchit un peu que d'avoir été prédestiné à l'adoption comme fils? Vous savez maintenant, cela veut dire les fils et les filles. C'est la Bible qui parle uniquement de fils, mais selon la Bible, ça inclut, bien entendu, et c'est pour ça que je l'ajoute parfois, pour que ce ne soit pas mal compris, fils et filles, tous ceux, hommes et femmes, qui sont nés de nouveau, qui ont accepté un jour le Seigneur Jésus-Christ, et ils appartiennent maintenant à lui. Éphésiens chapitre 1, verset 5. Mais le mot « enfant » utilisé ici dans la version second n'est pas tellement en harmonie avec l'idée de l'adoption, pas plus que la préposition qui l'accompagne. C'est le mot grec « huiotesia » qui est utilisé dans ce passage. Il désigne la qualité de fils. C'est donc lui qui est employé dans l'original et non pas le mot « enfant ». L'expression « enfant »,« enfant d'adoption » se justifie quand il s'agit d'une adoption légale. Mais saint Paul parle ici d'enfant né de nouveau en Jésus-Christ, ce qui n'est pas pareil, et destiné à une position de pleine maturité, de pleine responsabilité et de pleine autorité dans la famille de Dieu. Saint Paul avait une oreille de poète et de voyant. Nous savons, dit-il, que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Il devine l'insatisfaction de la nature. Les tonnerres se lamentent. Elles se lamentent, les années passent en soupirant, le vent gémit, aujourd'hui plus que jamais, les fleurs se fanent, il faut décidément que quelque chose se passe. Car la création, oui, la création tout entière, toute la nature est là, dans l'expectative, languissant et soupirant profondément, attendant que soient connus les fils, les filles, les hommes et les femmes de Dieu, que leur qualité de fils soit révélée au grand jour, selon Romains chapitre 8, verset 19. Cela est traduit librement du Nouveau Testament amplifié anglais. La création ici ne peut signifier que le monde de la nature. Il ne peut s'agir des fils de Dieu puisqu'ils sont justement ceux que l'on attend. Il ne peut donc s'agir non plus du système corrompu qui constitue le monde, car aucun élément de ce mystère ou de ce système-là n'aura part à la gloire. Il n'y aura pas de choses polluées, de choses artificielles, de mensonges et tout ce qui va avec. Il ne peut pas non plus s'agir des anges. Car voyez-vous, les anges ne sont pas mentionnés dans l'histoire de la création. Donc, il ne peut y avoir qu'un seul sens à, on peut dire, à ce mot qui veut dire création, à ce mot création. Il y a donc un seul sens tel qu'il apparaît dans le texte. C'est le monde physique et matériel des plantes et des animaux dans la terre. C'est donc ce monde que Dieu a établi pour être l'habitation de sa famille. C'est ce monde-là qui gémit et qui souffre avec nous d'un état de mortalité et de corruption. Car tout est pollué à outrance, il ne faut pas se le cacher. Et ce n'est pas elle seulement, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit-Saint, nous soupirons en nous-mêmes, nous soupirons en attendant l'adoption, en attendant la mise en place des intéressés dans la plénitude de leur qualité de fils et des privilèges qui y sont attachés. Car bien que nous sachions que nous sommes enfants de Dieu, nous attendons la robe qui est destinée aux fils, et j'ajoute aux filles. Elles sont en haillons, nos robes actuellement. Ce corps corruptible, on peut dire vieillissant, n'est plus ce qui convient à des fils. Nous attendons la rédemption de notre corps. D'ici à ce que notre état de fils ait atteint sa plénitude définitive, nous nous réjouissons déjà d'être dans la famille et tout en étant capable de dire « Alléluia », nous avons toujours cet autre cri au-dedans de nous. Amen. Oui, viens vite, Seigneur Jésus-Christ. Et voici comment se présente à nouveau la version allemande au verset 23 de Romains chapitre 8. Car malheureusement, je suis de langue allemande, mais vous savez, ne pensez pas, par erreur, qu'une version anglaise ou allemande ou française ou espagnole, et j'en passe, serait totalement différente. Ce n'est pas vrai. Il y a parfois des synonymes différents qui veulent dire exactement la même chose, et c'est pour mieux nous faire comprendre certaines choses, comme la fameuse Bible amplifiée anglaise. Alors voici comment se présente cette fameuse version allemande au verset 23 de Romains 8. Il est clair pour quiconque a des yeux pour voir qu'au temps présent, toute la vie créée gémit dans une sorte de travail universel d'enfantement. Il est donc clair également que nous, qui avons l'avant-goût de l'Esprit-Saint, sommes dans un état de tension en attendant la rédemption de nos corps. Cela signifiera, pour finir, que nous aurons réalisé en Dieu la plénitude de notre qualité de fils et de fille. Si vous essayez de vous faire une idée générale de la chrétienté contemporaine, vous conviendrez qu'il y a très peu de croyants qui ont la vision du corps de Christ ou qui sont éclairés sur notre vocation, devenir pleinement des fils. L'adversaire s'est servi de tous les moyens imaginables pour aveugler, enténébrer, limiter et égarer le peuple de Dieu afin de l'empêcher de voir quelle est la vraie, la véritable nature de l'Église, quelle est sa véritable vocation et sa véritable destinée. Nous devons comprendre que ce n'est pas là une vérité facultative, que nous pouvons examiner si nous en avons le temps. Elle est au cœur même de ce dessein divin d'édifier un temple à la gloire de Dieu. Que de chrétiens ont vaguement entrevu la gloire qui leur est destinée à eux, mais ont été frappés de cécité en ce qui concerne une vie vécue exclusivement pour lui, donc pour Dieu. L'éducation que reçoivent les fils est sanctionnée par un grade. C'est le trône. C'est ce que le père de famille noble destinait à son fils quand il voyait venir le jour de sa huiothésia, c'est-à-dire de son adoption, car c'était ce jour-là qu'il commençait à partager son autorité et son gouvernement avec lui. Et c'est donc pour cette raison que notre Père a attendu, tandis que l'Esprit-Saint nous conduisait dans toute la vérité. Dans son école, nous passons spirituellement de la classe de la première enfance à celle de l'enfance proprement dite, où toutes choses sont faites pour nous. Puis, nous arrivons à un stade où le dessein de Dieu peut être accompli à travers nous. Quand nous sortirons de cette école, toute notre promotion recevra un grade, c'est-à-dire un diplôme collectif. Nous serons un seul homme nouveau, une seule femme nouvelle, et c'est comme tel que nous parviendrons au jour de notre adoption en tant qu'unité organique corporative. Je répète, en tant qu'unité organique corporative. C'est sans doute décevant pour celui qui a la démangeaison égoïste de passer avant les autres ou d'être reconnu comme le plus grand, le plus capable, le plus merveilleux. Mais c'est, écoutez bien, mais c'est du corps de Christ tout entier que Dieu est préoccupé. Et quand nous aurons acquis une conscience de corps, nous commencerons à vivre pour lui en atteignant notre maturité au sein de l'Église. Jamais un serviteur aussi gentil de cœur, ainsi que sa femme bien-aimée, on peut s'appeler Bussy ou n'importe, croira ou pense un seul instant uniquement à lui. Il pense à sa congrégation tout entière. Et nous oublierons nos propres exploits et nous nous occuperons de ceux des autres. Romains chapitre 8 nous présente ces quatre aspects de la qualité de fils. Premièrement, nous recevons l'Esprit-Saint pour marcher avec lui. Romains chapitre 8, versets 14 et 16. Deuxièmement, l'Esprit d'adoption vient à nous comme éducateur. Chapitre 8, verset 15. Troisièmement, nous attendons la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Chapitre 8, verset 19. Et vous savez que nous sommes dans Romains au chapitre 8. Et quatrièmement, notre pleine qualification comme fils d'adoption nous sera octroyée quand nous recevrons d'en haut notre domicile céleste. Romains chapitre 8, verset 23. Vachmani disait, « Si la croix mutille, elle ouvre en nos cœurs un sillon fertile et nous rend vainqueurs. » Je répète, « Si la croix mutille, elle ouvre en nos cœurs un sillon fertile et nous rend vainqueurs. » Gloire à Dieu, on peut le dire. Chers amis, si nous nous sommes arrêtés, si nous nous sommes installés pour prendre le temps d'examiner toutes choses du point de vue éternel et avec les yeux de notre Père, il nous est impossible de rester indifférent à l'heure qu'il est à l'horloge divine, à la marche de l'histoire et à l'imminence de la fin. Comme au jeu d'échecs, nous pouvons voir que chaque mouvement exécuté par les grands de ce monde est une étape plus décisive et plus fatale vers la crise finale. Impasse d'un côté, échec d'un autre, la lutte entre deux gouvernements dans l'invisible, elle touche à sa conclusion. Tous ceux, oui tous ceux, qui ont quelque discernement spirituel seront contraints de prendre conscience et de reconnaître au cours de cette étude le caractère impératif de ce qu'il faut bien appeler le vrai problème de l'heure actuelle. Au sein de l'Église chrétienne, il y a des membres qui vont de l'avant avec le Seigneur et le suivent de tout près d'un cœur résolu. Une bataille terrible pour le trône de ce monde fait rage, oui, fait rage de toutes parts et menace de tout balayer. Jamais, nulle part, lutte plus âpre ne s'est vue. L'ennemi jette toute sa puissance dans la mêlée et y pousse toutes ses marionnettes en rang serré. Donc un tocsin d'urgence se fait entendre pour sommer le peuple de Dieu de relever le défi suivant qui le prendra. Ce gouvernement de l'univers, est-ce Dieu ou est-ce que ce sera Satan? Si les hommes ne gagnent pas plus de discernement pour voir ce qu'il y a derrière la scène actuelle du monde, ils ne s'élèveront pas à la hauteur de cette provocation de l'ennemi. Les fils de Dieu sont en train d'être formés pour s'emparer maintenant du royaume dans un sens spirituel et partager le trône dans le siècle à venir. L'ennemi est déterminé à cacher au peuple de Dieu la vérité concernant le corps de Christ et il a une raison. S'il y a quelque part un groupe de chrétiens qui constitue une telle expression de la vérité qui est le Christ corporatif, on peut être sûr qu'il deviendra une cible pour Satan et qu'il subira de toutes parts les assauts les plus violents. Nous connaissons la valeur d'un témoignage individuel intrépide, mais combien supérieur serait la puissance accumulée dans un corps où se fondraient les individus, démontrant devant le monde que les enfants de Dieu peuvent communier et vivre en parfaite harmonie. Car quand l'Église sera une, alors le monde croira. Il est dit en Saint Jean, au chapitre 17, verset 21, « Afin que tous soient un, exactement comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie et soit convaincu que tu m'as envoyé. » Saint Jean, chapitre 17, verset 21, selon une version allemande. Donc, la parole de Dieu dit qu'un seul en poursuivrait 100 et que deux se mettraient ou en mettraient 10 000 en fuite. Oh là là, il y a de la force, de la puissance dans l'unité. J'aime pas beaucoup le mot force, mais je pense qu'on peut dire la puissance dans l'unité. Satan se rend compte qu'il sera immédiatement déposé quand le Fils corporatif sera pleinement manifesté. J'ai dit le Fils corporatif. C'est alors en effet qu'il, Satan, perdra sa position et son empire. Le verdict prononcé au calvaire sera finalement exécuté, car depuis que le Seigneur a ouvertement triomphé au calvaire sur le plan du droit strict, l'ennemi a été jugé et couvert de honte. S'il continue de régner sur la terre, c'est parce que l'homme n'a pas voulu lui imposer ce verdict. Bien au contraire, l'homme s'est mis de son côté, ou à tout le moins, il a fait un compromis avec lui. Et comment? On peut comparer cette situation à celle d'un chef d'État ou d'un président qui ne peut pas obtenir l'appui du reste de son cabinet pour faire appliquer des arrêts qui ont été pris régulièrement et qui sont conformes à la Constitution. Christ a triomphé, mais son peuple n'a pas pris position à ses côtés dans sa victoire. Il y en a qui, on peut dire, seront pas d'accord avec ce que je dis maintenant, mais comme quelques-uns l'ont peut-être déjà remarqué, plus la détermination du Fils corporatif de Dieu, d'occuper une position d'autorité est forte, plus terribles deviennent les assauts de l'ennemi sur le plan spirituel. Aussitôt que le Fils corporatif sera manifesté dans la gloire, aussitôt qu'il sera solidement debout et uni à la tête sous tous les rapports, alors l'ennemi sera précipité des lieux célestes et engagera les hostilités sur la terre avec une furie inégalée. Alors le combat livré par l'Église a toujours été une lutte spirituelle, et c'est sa victoire dans le domaine spirituel qui déclenchera cette douloureuse tribulation et cette terrible colère qui doivent précéder la victoire finale du Fils. À cause de la fureur de Satan contre la terre, la guerre déploiera ses effets jusque dans l'ordre physique et naturel dans une bien plus grande mesure qu'auparavant. Apocalypse chapitre 12, versets 9 et 12. aux yeux de beaucoup de personnes, il peut sembler que la grande bataille qui fait rage déjà maintenant sur la Terre, soit celle qui se livre le capitalisme et le socialisme. Mais ce n'est là qu'une manifestation de surface. Si nous voulons comprendre le vrai conflit spirituel, nous avons trois conditions à remplir. Premièrement, reconnaître le fondement et la structure de tout gouvernement. Deuxièmement, discerner les conceptions fondamentales des différentes formes de gouvernement. Et troisièmement, comprendre l'intention suprême de Dieu dans la question du gouvernement du monde. Examinons-les donc l'une après l'autre maintenant. Alors, il existe deux notions fondamentales opposées concernant le gouvernement et les droits de l'homme. Premièrement, depuis longtemps, une partie de l'humanité reconnaît que c'est Dieu seul, qui est la source de toute autorité. Donc, parce qu'il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme est doté de certains droits inaliénables, tels que la liberté, la possession de biens matériels, le droit au travail, etc. Et deuxièmement, d'autres soutiennent que la source de tous les droits est inhérente au gouvernement, quel qu'il soit, et que c'est lui qui en est donc investi. On ne saurait donner de meilleurs exemples de ces deux conceptions qu'en citant les constitutions respectives des États-Unis et de la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Les pères fondateurs des États-Unis reconnurent l'autorité de Dieu quand ils précisèrent dans le deuxième paragraphe de leur constitution que tous les hommes sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables tels que la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Par contraste, sous le régime totalitaire tel que le prévoit la constitution russe, etc., c'est l'État qui est investi de tous les droits et c'est lui qui en dispose. Vous voyez la différence. Si les droits nous viennent de Dieu, il n'est ni l'État, ni dictateur, ni parlement qui puisse nous les enlever, excepté avec la permission de Dieu comme punition pour usage abusif. D'autre part, s'il est vrai que les droits sont accordés par l'État, alors l'État peut aussi les retirer. Dans la constitution russe et les autres que j'ai nommés, il faut digérer 4 chapitres, lire 117 articles qui mettent sur pied un État absolu, totalitaire, monolithique et matérialiste avant de trouver la mention d'un seul droit. Après avoir attendu si longtemps et essayé d'absorber en quelque sorte tout ce verbiage socialiste à double sens, on est naturellement tout à l'expectative d'apprendre quels sont les droits accordés au peuple. Lequel est le premier, pensez-vous? C'est uniquement le droit au travail. Hein? Que ce soit en Corée du Nord, en Chine, en Russie et, je dirais, chez ces terribles talibans et compagnie, ou l'Iran, Eh bien, c'est uniquement le droit au travail. Pas question du droit à la vie. Mais tous les droits accordés au peuple, 6 ou 7, sont garantis par l'État. Tout cela est révélateur d'une différence fondamentale. Ou bien l'État existe pour la personne, ou bien c'est la personne qui existe pour l'État, comme dans certains pays. Aux États-Unis, comme en Suisse ou en Suède, la personne a des droits qui sont indépendants de l'État. Chez les Russes, il n'existe aucun droit inaliénable. Tous peuvent être retirés par l'État qui les a octroyés. Ainsi, l'État usurpe, c'est bien le mot, la place de Dieu. Le système russe et autres est virtuellement athée. Karl Marx a compris la source inhérente des droits bien mieux que beaucoup d'Américains. Il n'aimait pas la démocratie parce que, disait-il, elle est fondée sur le principe que chaque homme a une âme indépendamment de tout ordre social ou de toute classe sociale. Il a dit « Je prétends que seule la classe a des droits. L'individu n'a aucune valeur quelconque à moins qu'il ne soit un membre de la classe révolutionnaire. » Voici comment nous comprenons la différence entre la personne et la classe. Une personne est un être possédant une âme, esprit, doué de raison. De ce fait, elle a des droits. Un porc, un rat, un serpent n'a pas d'âme douée de raison. Il n'a que des instincts et des appétits animaux. Et c'est pourquoi il n'a pas de droit. Prenez une hyène. Je ne crois pas que c'est quelque chose de gentil. Une fleur de même n'a pas d'âme et n'a donc pas de droit. En Russie, en Corée du Nord, les hommes, en tant qu'individus, sont utilisés comme les animaux ou cueillis comme les fleurs, et cela au gré de l'État qui les contrôle. Ils ne sont pris en considération que en bloc ou en classe. Les individus n'ont pas de droit. Alors, nous avons représenté les trois types fondamentales ou fondamentaux de gouvernement qui découlent de l'ordre de choses établi par Dieu. Ce sont la théocratie, le gouvernement de Dieu, ensuite l'anarchie et le totalitarisme. Pour comprendre la notion fondamentale de gouvernement, nous devons revenir à notre juste point de départ en Dieu. Quand nous reconnaissons que Dieu, qui est la source suprême de tous les droits, a prévu que l'homme ne serait jamais qu'une source secondaire de droits, comme lorsque une autorité accorde à un couple le droit d'élever un enfant qui ne leur appartient pas, parce que c'est Dieu qui garde la haute main sur les droits que l'homme en possession d'autorité peut accorder à ses semblables. Nous pouvons comprendre ce qui est arrivé à Adam dans le jardin. Selon les prévisions divines, Adam aurait dû céder à Dieu tous ses droits, lui permettant ainsi de gouverner par son entremise. Il aurait été en quelque sorte le vice-roi sur cette terre. s'il avait accepté et suivi ce plan-là, et sa postérité après lui, on aurait eu une théocratie, le merveilleux gouvernement de Dieu sur tout l'univers. Au lieu de cela, Adam a choisi de se réserver pour lui-même l'exercice de ses droits. Sollicité par son appétit, au propre et au figuré, il entra dans une voie de gouvernement personnel, indépendant, qui en fait déboucha sur l'anarchie. Il a voulu être un dieu exerçant ses propres droits, libre de faire ce qui paraissait bien à ses yeux à lui, et c'est là, par essence, l'esprit de l'anarchie qui s'est emparé des cœurs rebelles depuis la chute. Comme nous l'avons déjà vu, l'état de neutralité en matière de gouvernement n'est qu'un état transitoire. L'homme doit se soumettre au gouvernement de Dieu, sinon, dans son effort pour être complètement libre, il tombera dans la servitude d'un gouvernement totalitaire, subordonné d'abord à ses appétits. Il deviendra bientôt esclave de Satan et très bientôt de l'Antéchrist. Et le diable qui a obtenu la dictature sur Adam gouvernera aussi les fils d'Adam. Si nous sommes assez honnêtes pour regarder en face toutes les implications de ce principe, nous verrons que la démocratie ne peut rendre ce qu'on en attend que si les hommes choisissent délibérément Dieu comme celui qui les gouvernera individuellement et se soumettront à lui avec tous leurs droits. Dans la mesure où Dieu est libre de mettre sur pied une théocratie sur les voies individuelles d'un peuple, rien n'empêchera ce peuple de rester libre de toute oppression. Voyons un peu maintenant ce qui est arrivé à notre démocratie. En raison de l'égoïsme inhérent au cœur de l'homme, les citoyens de notre pays ont insisté pour user de leurs droits pour acquérir bien-être et profit. Les morts spirituels non régénérés qui vivent autour de nous par millions ne vivent que pour leur appétit. Au lieu de vivre pour Dieu avec une préoccupation pour les besoins d'autrui, chacun a fait ce qui semblait bien à ses propres yeux. Le résultat, c'est que la ligne de conduite du gouvernement ces dernières années a été, on peut dire, a été d'intervenir pour réprimer les tendances égoïstes. Constitutionnellement, le peuple n'a pas donné au gouvernement le droit de prendre de telles initiatives. C'est le gouvernement qui a usurpé des pouvoirs plus étendus pour agir en faveur de ce qu'il appelle l'intérêt de tous. La puissance de la classe a été découverte et exploitée et la tendance actuelle vers une société d'abondance porte en elle les germes inhérents au totalitarisme. Il n'y a pas besoin de beaucoup de sagesse pour reconnaître que toutes les formes de gouvernement inclinent vers un de ces types, soit le gouvernement de Dieu, soit le gouvernement du moi, ou soit le gouvernement de Satan. Aujourd'hui, l'homme dans la rue ne tient pas en réalité à son indépendance. Il croit qu'il y tient, c'est tout. L'indépendance, l'autonomie totale, elle comporte trop de responsabilités, et la responsabilité est un fardeau, l'horrible fardeau d'avoir à répondre à cette question: quel est le vrai but de ma vie? Si l'homme a un but, sa vie doit être empreinte de résolution. Or, celui qui sait ce qu'il veut vraiment, a besoin de discernement et de discipline. Je dis bien, n'oublions jamais de demander au Seigneur qu'il nous donne par l'Esprit Saint le discernement, la sagesse, sans oublier la discipline. Ça s'appelait en général pas trop d'être obligé de se discipliner. C'est pour cela qu'elles ont tant de succès aujourd'hui, les théories qui enlèvent à l'homme la liberté ou l'engagent à y renoncer en faveur de quelques organisations intéressées. Le marxisme détruit la liberté qui se dissout sous son influence dans le déterminisme historique, c'est-à-dire le freudianisme, qui dissout en quelque sorte la liberté dans le déterminisme du subconscient et, n'oublions pas, l'érotisme à tous les coins de rue, et le régime totalitaire la noie dans la collectivité de la race, de la nation, du sang ou du clan. Quelle est l'intention suprême de Dieu, chers amis, dans le gouvernement du monde? Si les hommes n'embrouillaient les problèmes fondamentaux que dans le domaine politique, ce ne serait pas encore trop tragique. Mais on trouve la même confusion dans le corps de Christ, l'Église. Dissiper cette confusion, voilà donc le grand problème, le problème urgent de l'heure actuelle. Rachetée de l'esclavage par le sang de son Seigneur, l'Église ne va-t-elle vivre que pour elle-même, ne recherchant que ce que Dieu peut faire pour elle? Ou va-t-elle s'élever à la hauteur de sa responsabilité pour vivre d'une manière digne de son intention suprême? Ce n'est qu'en se plaçant sous l'autorité divine qu'elle peut vraiment, vraiment exercer l'autorité. Une soumission totale à la tête, sous la complète et joyeuse direction de son Esprit Saint, voilà donc ce qui lui incombe. Comme nos cœurs, mon cœur m'a fait mal quand j'ai trouvé une fois dans l'Église des personnes qui réagissaient contre le gouvernement de l'Esprit Saint et insistaient pour obtenir un gouvernement autonome. Si les problèmes fondamentaux de gouvernement deviennent facilement compliqués ou confus, c'est parce que certains éléments insistent pour exercer leurs droits démocratiques. Chacun a le droit de vote dans l'Église locale. Ce n'est donc pas Dieu qui règne, mais l'égoïsme collectif de la communauté. Plus ou plus d'une Église, on peut dire incapable de garder son pasteur, parfois plus de 12 ou 15 mois, et c'est vrai, ne survit qu'à la faveur d'un régime qui n'est pratiquement que de l'anarchie. Pourquoi? Parce que les bancs sont remplis de membres qui ne savent pas ce que c'est que la souveraineté de Dieu sur leur vie. À d'autres extrêmes, naturellement, il arrive, et j'espère que ça soit quelque chose de rare, qu'un pasteur de tempérament un peu trop volontaire monte sur le trône et se comporte virtuellement comme un dictateur. Qu'arrive-t-il alors? Il disperse le troupeau ou subjugue ceux qui restent. Il voit que les membres ont besoin d'être gagnés, mais il les gagne par sa puissance et par sa méthode à lui, et non pas à la manière divine et par l'Esprit Saint. Quand les hommes ne veulent pas céder au gouvernement de Dieu, l'esprit totalitaire les gouvernera par la force, tôt ou tard. L'heure est donc venue où des hommes au jugement sage et mesuré doivent se lever et prendre position en faveur du gouvernement divin dans l'Église. Pour ceux qui résistent à l'autorité, cela peut paraître une manifestation de l'esprit totalitaire. Mais parce que Dieu a délégué son pouvoir à des hommes qu'il a rachetés, il sera avec ses serviteurs comme il a été avec Moïse. C'est son autorité dans l'Église qui réalisera son objectif dans le monde. Nous devons nous souvenir que le plan de Dieu comporte un gouvernement dans la joie par ceux qui sont devenus ses esclaves par amour, s'étant engagés joyeusement sur le chemin de la croix. Ils se sont soumis de plein gré à son gouvernement, ils sont heureux sous l'autorité de Dieu et s'associent avec joie à ses desseins. Les croyants qui se soumettent à un tel gouvernement découvrent que ce n'est pas un esclavage, mais une bénédiction. Cependant, pour ceux qui refusent de plier sous la main de Dieu et de ses serviteurs et insistent sur l'esprit d'indépendance totale dans cette question de gouvernement, Dieu a pris ses mesures pour leur imposer la loi morale et naturelle. La loi n'entre en jeu que lorsque les hommes dépassent la mesure. Dans tout cela, nous constatons que Dieu est quand même le souverain et que le gouvernement est inséparable de sa personne. Mais il ne trouve son plaisir qu'en ceux qui choisissent joyeusement d'être gouvernés, non seulement par la loi naturelle et morale, mais par la loi spirituelle de son royaume. Avez-vous jamais vu quelqu'un dont le corps n'obéisse pas aux directions de la tête? On appelle cette maladie la danse de Saint-Guy. Elle est causée par l'incapacité de la main ou du pied de répondre à l'impulsion du cerveau. C'est de l'anarchie manifeste dans le corps physique. Un coup d'œil sur le corps spirituel de Christ va nous apprendre que cette maladie, ici aussi, empêche la tête de fonctionner efficacement par son corps. Cet état-là ne durera pas longtemps. Dès l'éternité, le Père a prévu que son Fils aurait un corps pour exprimer sa vie, sa lumière et son amour. Vu sous cet angle-là, c'est le point de vue du cœur de Dieu, l'Église nous apparaît destinée à devenir le vase d'honneur et de gloire que Dieu s'était proposé d'obtenir. Examinons maintenant, avant de terminer, quatre prépositions qui expliquent comment sera réalisée cette suprême intention de Dieu pour son Fils. Premièrement, Dieu a tout mis sous ses pieds et l'a donné comme chef suprême à l'Église qui est son corps. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Verset 22. Du point de vue éternel de Dieu, c'est déjà chose faite. Quand les membres ne réagiront que à la tête, il y aura une glorieuse harmonie à l'intérieur du corps et chacun accédera à la véritable mesure de sa pensée, de son dessein, de sa vision et de son esprit. Deuxièmement, si vous avez jamais essayé de percer le mystère de tout ce qui existe, voici l'explication de saint Paul. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens chapitre 1 verset 16. Ainsi le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement la tête de son corps, mais il doit avoir la prééminence en toutes choses. Colossiens chapitre 1 verset 18. Le Père savait dès le commencement quelle serait la consécration et le dévouement de son Fils. Il savait ce qu'il pouvait attendre de lui longtemps avant l'épreuve suprême du calvaire. Aussi choisit-il d'accomplir toutes choses, non seulement par lui, mais pour lui. Troisièmement, il y a un principe divin en vertu duquel tous les éléments qui contribuent à l'accomplissement du dessein suprême arrivent à faire leur part tranquillement et dans la sérénité. Le Père a prévu que toute chose serait faite par lui. C'est une chose de créer, or c'en est une autre de perpétuer. Je répète, c'est une chose de créer, or c'en est une autre de perpétuer. C'est par là qu'on voit le contraste frappant qu'il y a entre les systèmes humains et le gouvernement de Dieu. Dès l'éternité passée, il avait prévu que ce serait par Christ que toutes choses entreraient en action et poursuivraient leur activité. Ce qui n'est pas fait par lui est donc temporel et transitoire. Son œuvre seule est éternelle. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Colossiens chapitre 1 verset 17 selon la version Darby. Et quatrièmement, ce n'est pas seulement en lui, pour lui et par lui, mais c'est aussi avec lui que le Père atteindra les dernières confins de l'univers par l'expression la plus complète de lui-même. Comme le Fils s'exprime par son corps, le Père s'exprime par son Fils corporatif. Ainsi, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, ou en tout, gagnera tout l'univers par le corps, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans les siècles à venir. Saint Paul écrit, « Afin, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir ou de récapituler toutes choses en Christ. » Éphésiens, chapitre 1, verset 10. Oui, c'est par Christ comme Fils de sa droite que le Père remplira tout dans l'univers tout entier. La domination sera sur son épaule à l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin, selon Ésaïe, chapitre 9, verset 6 et 7, version Darby. Finalement, et c'est la fin avant la prière, finalement, chers amis, nous posons la question. Est-ce pour le Fils unique et pour lui seul que tout cela a été prévu et préparé. Non, non, non et non. Selon son unique bon plaisir, le Père a pris ses mesures pour que le Fils corporatif en son entier et part à la victoire, uni par son Esprit Saint comme membre de son corps, nous sommes appelés à partager un jour sa gloire et à lui être associés à la tête du royaume. Nous sommes inclus dans la glorieuse intention du Père pour son Fils bien-aimé par le simple fait que nous sommes en lui. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, et cela afin que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 28. Chers amis, nous allons terminer par la prière. Prions ensemble. Seigneur, nos âmes doivent se recueillir en ta sainte présence lorsque nous nous prosternons devant toi. Mais nous sommes tellement captivés par les objets et les intérêts de cette terre que nous pouvons à peine en détourner notre attention. Et cependant, cette terre est elle donc le lieu pour lequel nous sommes faits. N'y sommes-nous pas étrangers et voyageurs? L'homme dans la force de l'âge, la jeune fille, le petit enfant, ne se trouve-t-il pas appelé en même temps que le vieillard à quitter cette vie? Pouvons-nous donc être si légers, si insouciants, si peu sérieux? Nous devons te prier, ô Dieu, Dieu de bonté, de nous rendre plus attentifs à tout ce qui concerne notre éternelle destinée, car c'est d'avoir plus de zèle pour te servir, ici le temps où nous pouvons travailler à notre salut. Veuille donc nous déprendre de tant de vaines préoccupations, oui, de tant d'affections qui ne sont point épurées et sanctifiées par ton amour, de tout d'intérêt futile. Veuille nous préserver de la funeste influence qu'exerce sur nous le monde et ses dangereux prestiges, que nous n'imitions pas les insensés qui détournent la tête pour ne pas voir un abîme alors qu'ils courent s'y précipiter. Rappelle-nous et fais-nous sentir que trop souvent, même en riant, le cœur est triste. Il est triste lorsque on appartient au monde, tandis que pour tes enfants et tes rachetés, là, Seigneur, il y a de la joie même dans les larmes, et le sentiment de ta présence, la pensée de la brièveté de notre vie et l'attente de ton jugement redoutable peuvent seuls nous rendre véritablement sérieux. Et lorsque nous le serons devenus, nous nous sentirons pressés de chercher dans ta miséricorde toute gratuite, dans le pardon que Christ nous a obtenu au prix de ses souffrances et de sa mort, les assurances dans lesquelles l'âme ne peut connaître de paix. Ô bénis-nous, ô Dieu, en nous donnant des impressions sérieuses et en élevant nos cœurs et nos âmes à toi. Ô, exauce les prières que nous t'adressons pour nos parents et pour nos amis. Aie pitié de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui pleurent, de tous ceux qui ne sont point encore soumis à ta loi, et que, à toi seul, soit la louange, l'honneur et la gloire pour l'éternité. Amen. Et chers amis, comme je le dis toujours, pour autant que le Seigneur me donne encore la vie jusqu'à demain, alors demain ce sera la suite de cette importante série. Au revoir mes très chers amis. N'oubliez pas que le Seigneur vous aime. Pour autant que vous ayez un jour accepté sa main tendue pour l'accepter pour votre Sauveur et Seigneur. Au revoir.